hors champ. Orchamps, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Orchamps ce soir en compagnie de Beniat Atchari. Tout petit, Beniat, vous saviez que vous aviez déjà une voix particulière ?
Vraiment non. Parce que tout petit, quand on chante, c'est dans la rue, avec les amis, tout seul, comme ça, sous la pluie. Et c'est chanter sans encore savoir ce que chanter veut dire, en toute innocence. Non, je ne savais pas, non.
Vous avez été élevé dans quel genre de milieu ?
Saint-Palais, dans la Palais ou en Basque, était un petit village. C'est toujours un village de l'intérieur du Pays Basque, avec à l'époque de très gros marchés, avec une présence des agriculteurs, des bergers dans la petite ville. Mon père était boucher dans ce village. Tous mes cousins étaient agriculteurs. Ma tante était couturière. Elle avait l'énorme avantage d'être aussi ouvreuse du bal, du petit bal du village. C'était une vraie basquaise avec Moutioua ici sur la nuque.
Et c'est quoi Moutioua ici?
Moutioua, c'est le chignon. Et quand elle, je me rappelle, enlevait ce chignon, les cheveux de nos grands-mères descendaient jusqu'aux reins. Alors voilà, ça c'est mon enfance, c'est les chants, c'est...
Les chœurs.
Pendant les fêtes, comme je vous ai dit, mais aussi dans les Angélus. À fond, pour l'ivresse totale de la vibration. Mais c'est aussi les orages, c'est aussi les rivières, c'est encore très peu de son urbain dans nos villages, très peu de machines, les petites mobilettes bleues, pas de télé. Et c'est là que le bruit de la pelote, le bruit de... Voilà, c'est là, mon enfance est là. Je me rappelle un jour, j'étais à Larro, la Ragnée, et revenant d'une marche de montagne, j'ai vu un homme du village avec sa mule s'abreuver à la rivière et remonter. Et dans le déhanchement de la mule, il s'est mis à chanter dans le bruit du monde. Je pense que c'est ça, ma grande éducation au chant, elle commence déjà là. Oui.
Mais auparavant, Beniat Atchari, vous avez fait des études, vous auriez dû être prof.
Oui.
Et puis mai 68 est passé, et là, vous avez décidé de rentrer en usine.
Oui, c'est ça. J'avais envie d'être professeur d'espagnol, parce que j'adore la langue espagnole, d'autres langues, toutes les langues, en fait. Mais un instituteur m'avait fait aimer cette langue. Et je me destinais à des études de lettres. Quand, comme vous avez dit, 68, d'où ça est arrivé, oui, je suis revenu au pays et j'ai passé un CAP de maçon. Je travaillais dans le bâtiment, puis ensuite dans plusieurs années dans une usine. Mais je n'avais pas encore décidé de faire de ma vie une vie dédiée au champ, habitée par le champ.
Et que retenez-vous de ces années en usine ?
C'était Zola dans cette usine, c'était le fer, c'était la fonte. Et ce que je retiens, c'est la tendresse, de la tendresse pour tous mes amis avec qui j'étais, énorme pour leur dignité et aussi pour leur capacité de poésie. De poésie était partout dans la fierté des femmes, dans leur manière de se situer dans l'atelier. Dans la dureté de l'atelier, dans leur noblesse quand elles décidaient quelque chose. La poésie, elle était aussi dans celle de mon voisin qui était agriculteur à Espelette et qui, au printemps, ne manquait pas d'amener dans son panier d'osier les cerises. Et alors, dans la saleté de l'usine, c'était la fête quand de son torchon blanc apparaissaient les cerises bien rouges qu'on mettait bien sûr aux oreilles et qui faisaient hurler les meuleurs quand on passait pour aller prendre la douche. Parce que c'était les cerises amenaient évidemment, c'était l'éruption du printemps, de la montagne, de tant de choses fantastiques. Je pense aussi au recueil Les Voix d'Itsassou, que justement Francis Marmande démarre par Les Cerises. Donc voilà. Et c'est le titre aussi, Les Cerises, Gelesien Dembora, de la future pastorale urbaine que nous allons faire en 2013, Le Temps des Cerises, Gelesien Dembora en basque, sur justement l'histoire de mal connue des ouvriers de la sidérurgie, du métal, etc., des générations de vie qui ont existé à l'embouchure de l'Adour, du côté du Boucau et Tarnos. Bien sûr, on chantait énormément. Moi, je chantais beaucoup avec mon voisin. Ce qui faisait,
en basque ?
Bien sûr, en basque et à tue-tête dans le fracas de l'usine. Ce qui rendait, je crois, tous mes amis, tous nos amis heureux. Ouais.
À partir de quel moment avez-vous décidé de partir de l'usine ? Est-ce que vous avez eu un sentiment d'abandon, de trahison ?
Non, pas du tout. C'est quand, au bout de la fatigue, j'étais blanc comme un linge et il a fallu choisir entre la vie de musicien et la vie dans l'usine. Je pense que c'est la poésie qui m'a accueilli au bout de la fatigue, comme ça, et qui gentiment m'a rappelé à moi-même. Et bien sûr, dans une discussion avec ma femme, nous avons décidé, voilà, que ce serait ça, ma vie.
Nous allons écouter la voix d'Edouard Glissant qui va parler de la poésie. C'est un extrait de Du jour au lendemain au micro d'Alain Weinstein, une émission du 9 juin 2010.
Il me semble que la poésie et la rhétorique de la poésie ont quelque chose de fondamental qui nous permet de nous rapprocher de la palpitation même du monde. Ça a toujours été la prétention, l'ambition et la vocation des poètes, mais on n'a pas voulu le leur accorder. C'est pour cela qu'il y a des poètes maudits.
Ouais. C'est-à-dire que les poètes ne connaissent pas les frontières.
Oui, absolument.
Ils sont absolument rebelles à toute idée d'identité nationale, par exemple.
Absolument. Je dirais que les poètes connaissent et acceptent l'idée de la frontière, mais pas comme muraille ou obstacle, limite, ou isolement ou enfermement. La frontière comme jouissance du passage d'une saveur à une autre. De la saveur d'ici à la saveur de là. Et il me semble que cette jouissance-là, c'est le nouveau sens qu'il nous faut donner au mot frontière. La frontière est nécessaire parce que je ne veux pas perdre la saveur que je quitte. Et je ne veux pas perdre la saveur vers laquelle je vais. En aucun cas, la frontière ne doit être l'enfermement d'une saveur ou d'une beauté par rapport à une autre. Rimbaud, par exemple, avait senti le monde, mais il l'explorait encore, le bateau ivre, il l'explorait encore, parce que le monde était encore inconnu. N'est-ce pas ? Bon, qu'est-ce que c'était un nègre ? Qu'est-ce que c'était un indien ? Qu'est-ce que c'était... Pour les Européens, c'était inconnu. Mais maintenant, nous le savons. Il ne faut pas faire semblant de croire que nous ne le savons pas. Et les maladies de l'ignorance, comme le racisme, il ne faut pas faire semblant de croire qu'elles sont normales et qu'elles sont... c'est pas de notre faute, nous ne savons pas. Non, 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 nous savons. Et c'est pourquoi la poésie devient tout de suite une arme de combat, un moyen d'ouvrir les sensibilités. Il faut considérer la terre entière comme un infini. Et c'est pour cela que je dis le tout-monde. Le tout monde, ce n'est pas, c'est pas seulement le monde entier. C'est le monde tel qu'il sera demain, au moment où il va nous réunir tous. Le tout monde, c'est la projection du monde tel qu'il va nous réunir tous. Mais ce qui n'est pas encore fait. Et c'est ça notre horizon. Et cet horizon-là, il est infini. Nous avons toujours à le poursuivre. Et c'est pour ça que la poésie nous sert davantage dans ce domaine que les éléments de connaissance rationnelle et réaliste auxquels nous sommes habitués.
Je vous vois écouter, hocher de la tête, Beniat Hatchari, en écoutant les propos d'Edouard Glissant, qui nous manque beaucoup, mais l'œuvre reste. Et je pense que vous adhérez complètement à ce concept qu'a inventé Glissant du tout monde, car pour vous, la poésie n'a pas de frontières, n'a pas de langue particulière, et elle s'exprime pour vous par le chant.
Oui, je suis très touché d'entendre la voix d'Edouard Glissant, qui était un ami, et il est présent dans chacun de nos pas. Hein. Et bien sûr... Il est venu plusieurs fois au Pays Basque dans nos événements, l'été dans les montagnes d'Itsassou et dans les rues de Bayonne, aussi à nos côtés pour les premières éditions des Éthiopiques de Mars. Il est toujours avec nous, et avec cette lucidité impressionnante, l'émotion de cette voix... C'est déterminant, quoi. Sa venue, sa pensée, pour nous, ont été déterminantes. Il a mis des mots sur ce que nous ressentions déjà profondément. Maintenant, c'est avec lui jusqu'au bout, quoi.
Vous évoquiez ces années d'usine après 68, puis ensuite ce choix de finalement incarner votre vocation, car je crois qu'on peut parler de vocation pour vous, Beniat Hatchari. Il y a eu aussi toutes ces années aussi d'après-franquisme d'abord d'anti-franquisme, où vous êtes devenu insensiblement l'un des grands chanteurs contre ces années franquistes, et où vous avez passé la frontière des Pyrénées et vous incarniez en Espagne comme en France justement la résistance à la lente, très 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 lente agonie du franquisme.
J'ai un rôle très modeste dans cela. Nos aînés, vraiment qu'il faut signaler, c'est les gens qui, de l'autre côté de la frontière, ont fondé le groupe Esdoc Amairu, où figure José Antonio Arce, notre grand poète mystique, qui est toujours en train d'écrire sans cesse. Et lui, qui avait son frère Rechouche, ont permis à la chalaparta, à la percussion sur les poutres, d'exprimer la poésie infinie qu'il y a en nous. Il y avait aussi le génial Oteiza. Ce sont eux qui étaient là, Chabierlete, toute une cohorte de jeunes hommes et de jeunes femmes qui ont, dans ces conditions-là, où ils le subissaient affreusement, fait renaître le chant basque. Et de notre côté, en Iparralde, comme on dit, nos aînés, Eñaut Etxamendi, Eñaut Larralde, qui ont été parmi les premiers à se lancer dans le renouveau du chant basque. Mais il y a aussi ceux qui ont traversé cette époque-là, les grands maîtres du chant basque de la montagne, qui nous ont toujours ensemencés de leur chant.
Nous allons vous écouter chanter. Vous allez reprendre The Meeting de Colette Magny, Beniat Hatchari, votre voix.
You sit down and be warm. Days of my life, and he nodded and sang without sound, and his face had a look of a man who and feeling familiarly came around. I said, "Mommy, where have you been for all these years? Mom, where are you when I sought you? Mom, do you know me as I know you? Mom, am I coming through?" And he spoke in a voice that was centuries old, and he smiled in a way that was strange, oh, most strange. And his full lips of night spoke about how people fly. And a feeling familiar came around. I said, "Mom, where have you been for all these years?
Vous vous souvenez dans quelles circonstances, Benyat Hatchari, vous avez repris cet hymne des Black Panthers?
Absolument, c'était dans ce disque assez récent qui s'appelle Avril. Et nous étions en train d'élaborer un corpus avec Philippe Descoura, qu'on entend ici à l'accordéon. Magnifique être et musicien. Et je ne dirai pas moins de Ramon Lopez qui est à la batterie. Et ce corpus est fait de chants basques traditionnels revisités et aussi d'air et de chants comme ça qui m'a particulièrement touché, notamment ce chant merveilleux chanté par Colette Magny qui depuis très très longtemps m'a habité. Puisque Colette Magny, nous avons eu l'occasion de l'entendre, je l'ai entendu au Pays Basque dans un vieux cinéma très très longtemps, pendant cette époque-là dont vous parliez avant. Elle était là déjà à Bayonne, mais ensuite je l'ai croisée aussi chez Bernard Lubat à Uzest. Et que dire de cet hymne qui est un hymne qui est un chant d'amour en fait entre un homme et une femme et la présence toujours de la femme. Et genre, c'est très important la présence des femmes dans tous ces processus là. Enfin pour moi en tout cas, elles ont énormément compté. Et des chanteuses, je veux dire. Colette Magny, évidemment, essentielle, je pense, pour beaucoup d'entre nous, un nombre de mes aînés, dans la voie du jazz, du chant, de l'authenticité, de la poésie jusqu'au bout.
Ouais. Vous avez combien de voix à l'intérieur de vous?
Alors là, je pense que c'était infini. C'est... Ça n'arrête pas. C'est comme un arbre qui s'enracine et qui s'ouvre en même temps. C'est infini, je m'en amuse parfois. Voilà, je dois dire par là aussi qu'il y a au Pays Basque la présence d'un poète essentiel qui s'appelle Mikel Laboa, qui nous a quittés et qui était un des dans la génération avant, un de ceux qui se sont levés pour faire renaître ce chant et qui, lui, était un poète absolu des voix. Et du son. Il connaissait le Royal Theatre. on l'entendait sonner dans les musiques qui étaient proches à José Antonio Arce, à lui aussi. Et lui a été dans la poétique des voix, dans ce qui, au-delà des mots, est vibratoire dans les langues, et dit beaucoup d'autres choses en plus du sens des mots, etc. Il en était d'ailleurs très préoccupé en tant que médecin psychiatre avec les jeunes handicapés. Et dans tout ce qui est de communication du pouvoir sonore des langues, de tout ce qui peut se dire dans les langues, je pense, a été aussi pour moi recueillir le fruit de ce travail de cet immense poète et chanteur. Ouais.
Alors nous sommes dans un studio, nous ne sommes pas au milieu de la beauté de la nature basque, au bord d'une cascade, mais puisque vous chantez a cappella, est-ce que vous pouvez nous improviser quelque chose ?
J'aimerais beaucoup, madame, mais je sors d'une bronchite pour ne rien vous cacher. Et bon, voilà, je peux dire une poésie peut-être. Gauero itzaltzen da gizakumea. Goizero bizten. Eta bien bitartean. Amets du egiten. Goizero bizten da. Gauero itzaltzen eta bien bitartean amets bat du bizitzen. J'aime beaucoup cette poésie de José Antonio Arce, ce petit bout, qui dit toutes les nuits, l'homme se couche, il s'éveille au matin et entre... Il rêve. Le matin, il s'éveille. Le soir, il se couche. Et entre, il vit un rêve. Voilà. C'est ça, là, le sens de cette poésie.
Nous allons écouter la voix de Gerasim Louka, qui va lire des poèmes extraits de son recueil. La proie sombre.
À l'orée d'un bois, dont les arbres sont des idées élancées, et chaque feuille une pensée aux abois. Le végétal nous dévoile le fond damné d'une secte animale, ou plus précisément, une vieille angoisse d'insectes qui se réveille homme. La seule voix, la seule arme fondamentale pour animer un mental que je m'empresse d'écrire mental comme mente, ne serait-ce que pour marquer d'un sec rire d'alarme le mot qui dévore. Entité et antithèse de la brousse. Une sorte de brosse organique et sauvage pousse dans la tête de cet homme, que l'hérésie des parcs et des serres ravage, comme l'orgasme d'une clé, une belle porte. Ainsi, la passivité légendaire, la fameuse et ample passivité des plantes se mue ici en haine oisive, en rage folle, en sexe, rixe et défi.
Nous venons d'entendre la voix de Gerasim Louka, poète majeur et beaucoup trop inconnu encore aujourd'hui en 2012. Vous avez mis en musique des poèmes de Gerasim Louka comme des poèmes de Michaud. Comment se passe la porosité justement entre le chant et l'énonciation de la langue poétique pour vous ?
Il y a longtemps que j'ai aboli les frontières entre le chant et le dire, et aussi entre le chant et la danse. Je ne savais pas tout ça au début, bien sûr, je l'ai appris. Alors, le rapport entre la danse et le chant, il a une source dans la tradition vivante du Pays basque, vu que les cantons chantent un bacha à Haided, donc un chant sans parole dédié aux oiseaux, comme Belacha, par exemple, le chant de l'épervier. Il nous est recommandé, dans la tradition orale, de vivre le chant de l'oiseau comme une calligraphie ailée. Et le chanteur devait évoluer dans l'espace. Donc, une sorte de danse, chant calligraphie, calligraphie, danse de l'oiseau dans le ciel, dont les choses étaient déjà bien amorcées. Ensuite, je suis un amoureux des voix, par exemple, celle d'Alain Cuny, par exemple, ne serait-ce que quand il dit devant sa fille Camille Claudel, « Viens, ma fille », à mon passage du film, il y a une telle profondeur dans cette voix qu'elle est déjà une rumeur profonde dans sa poitrine, une rumeur tout court. Je pense aussi à Bernard Mansiette qui pestait dans une église de Corse en chair, dans ces jeunes comédiens qui avaient du mal à dire Bossuet, etc., etc., et qui lui-même, quand il déclamait sa poésie, était tout à fait cosmique, organique. On entendait le vent, on entendait. Je me rappelle aussi d'une descente de grotte de Madame Didot Likoudis. Disant des textes en grec ancien. Et donc, quand on revient aux sources, comme ça, de la langue, peu à peu, ces différences s'abolissent. Si on y ajoute toutes les strates vibratoires du son, sens, du pouvoir des langues qu'ont exploré nos plus immenses poètes, je pense à M. Méchonic aussi sa pensée sur les traductions, etc., encore plus mis en évidence. Donc on arrive à l'évidence totale que entre ce qu'on peut dire dans un état de chant ou chanter se relie en permanence. Et je pense que, évidemment, des gens comme Gerasim Luka, mais aussi François Cheng ou José Antonio Arce m'ont guidé profondément vers ce, à assumer peu à peu ça dans ma voix, dans mon chant.
Vous venez d'évoquer le souvenir de Bernard Mansiette. Nous allons l'écouter parler de son rapport à sa langue maternelle. C'est une archive de Carnet Nomade, une émission de Colette Fellouz datée du 30 juin 2003. Bernard Mansiette.
Quand même, la langue populaire, vous savez, est quelquefois très pauvre. Hein. Quelquefois 400 mots, quelquefois 800, mais quelquefois 40 000. Alors, on ne peut pas tout dire. Alors, ce à quoi notre langue ne se prête pas trop, c'est l'abstraction. Où ça devient ridicule. Si le mot même abstraction... Gascon, ça devient ridicule, on ne peut pas le dire. Et même le salut éternel, on ne peut pas le dire. Salut éternel, ça se dit en gascon, je ne voudrais pas souffrir.
Nous venons d'entendre la voix de Bernard Mansiette et ça vous fait hurler de rire.
Mais oui, parce que c'est incroyable, cette intelligence habitée par un humour d'une telle lucidité. C'est
avec lui que vous avez inventé votre festival en plein milieu de la nature du Pays basque. Il était là, présent, chaque année.
Bon, on aurait aimé l'avoir vraiment chaque année, madame, mais...
Il est tombé malade.
On l'a eu quand même. Je me rappelle un Guernica qu'il avait écrit, le dire de Guernica qu'on a donné sur la colline d'Urshumu, devant tout l'océan illuminé. Et l'arrière-pays qu'on sentait puissant aussi, avec le groupe de Free Rock Étage 34, Michel Portal lui-même. Et il était parmi nous, mais avec une aisance, une lucidité, une force qui nous a tirés, qui a fait que cette nuit-là, la musique que nous avons eu la chance de donner a été fabuleuse. Quoi. C'est un, dans le bon sens du terme, un sorcier bénéfique, quelqu'un qui, par sa seule présence, tire les choses par le haut Mais alors, quand il se met à introduire la poésie dans la musique vivante, c'est absolument fabuleux, quoi. De même que M. Glissant aussi, Édouard Glissant. Ils sont tous d'immenses musiciens, évidemment. Ouais. Alors, c'est Uzest aussi. C'est là que nous l'avons connu, aux côtés de Bernard Lubat, qui nous a tellement fait connaître et vivre de choses, et avec qui nous vivons un compagnonnage fertile. En plus, maintenant, je dirais, avec la présence de tous nos jeunes qui sont là autour de nous.
Oui, parce que la transmission s'opère, et c'est incroyable comment, effectivement, cet amour de la tradition du chant basque continue aujourd'hui, alors qu'on pourrait penser qu'on vit dans une société mondialisée où les chansons venues d'Amérique, par exemple, auraient pu complètement éteindre. Mais il se passe exactement le contraire. Comment vous l'expliquez, vous ?
Ah, je l'explique par l'existence de vrais poètes-chanteurs. C'est le signe qu'une tradition est vivante quand... déjà pour moi, la tradition, c'est la renaissance. C'est l'invention de l'inouï.
Ce n'est pas la protection du patrimoine.
Et oui, c'est ça.
C'est le contraire.
C'est l'aventure de la renaissance. C'est l'innover comme un retrouvaille, comme dit Jacques Berck. C'est aussi l'immense phrase qui finit la conférence de Lorca sur le Duende, où il, parlant du Duende, il célèbre son apparition par l'apparition justement de la naissance des choses. Et donc, la tradition étant naissance, renaissance, quand elle est vivante, elle donne toujours, l'apparition de nouveaux êtres qui portent en avant. Mais ce n'est pas donné. Si on comprend mal, comme vous dites, ce qu'est une tradition, si on la confond avec la répétition des formes, à ce moment-là, passez-moi l'expression, mais on est cuit. Quoi. Il n'y a plus rien qui peut naître, renaître. Et c'est fondamental ça, pour la suite. C'est l'histoire de la source, encore une fois. José Antonio Arce qui dit « Je bois l'eau à la vieille fontaine, de l'eau toujours neuve, de la vieille fontaine de toujours et de l'eau de toujours ». Donc là, bien sûr, il est dans une sorte de verticalité du temps qui est le signe même de ce qui naît dans les traditions vivantes. Alors, effectivement, il y a toujours le danger d'éteindre, que cette source s'éteigne. Par quel miracle au Pays Basque, ou quelle vigilance de certaines personnes, quel amour tout simplement qui émane de certaines personnes, elle est toujours là. L'amour, le rire, tout ça, c'est très proche. L'audace, tout ça, c'est l'audace de danser, l'audace de chanter, qui nous sont communiqués par les gens qu'on a aimés et qu'on aime, et que nous transmettons à notre tour aux jeunes. Ainsi de suite, je crois que c'est comme ça qu'il existe toujours et qu'il existera, à mon avis, des jeunes poètes et des amoureux de la vie et qui vont continuer ce fil. Nous sommes simplement des passeurs.
Alors il y a aussi à l'intérieur de votre art, Beniat Achari, et aussi dans la tradition basque, une polyphonie de disciplines à l'intérieur du chant. Il y a le chant, il y a aussi les joutes oratoires. Et il existe beaucoup d'enjeux, y compris des enjeux philosophiques et métaphysiques.
Oui. C'est vrai que dans les berchuladi, ceux qui improvisent avec la langue, sont des maîtres de la langue, de l'espace-temps, de l'invention. Certains d'entre eux arrivent à être des philosophes aussi et des grands poètes. Ils peuvent être des bergers ou des instituteurs ou... Que sais-je, le don est généreux. C'est un don, oui. Et alors, la tradition avant, très très fertile, plus maintenant, toutes les écoles qui sont nées, parce que c'est un art, l'art de faire les vers, de les improviser, qui est très très aimé au Pays Basque. Et donc, des écoles d'apprentissage sont venues renforcer ce que la tradition avait amené. Quand on cumule les deux, on retrouve une jeunesse très tôt talentueuse, très tôt nourrie des meilleures expériences des anciens, et qui à qui on donne la possibilité de s'exprimer assez souvent et qui donc peuvent progresser à une grande vitesse. Et je suis fasciné par leur talent. C'est impressionnant, c'est jubilatoire. Et c'est un grand plaisir de voir cette jeunesse improvisée. Alors où, mais dans les fêtes, là par exemple dans les carnavals, ils sont de ma région natale ou d'autres, ils sont essentiels au moment d'improviser sur les places avec les danseurs, les tzirtzils qui leur fournissent maintes et maintes motifs d'improviser.
Et vous, vous avez le don ?
Non. Non. Je n'ai pas ce don-là. Le basque en moi a souffert. Et puis, il est bien sûr maintenant à nouveau présent. Hein, mais je fais partie d'une génération qui a, pour qui le basque, pratiquer le basque, n'était pas évident. Hein.
Parce qu'on vous a imposé le français ?
Oui, on peut dire ça, oui. Et peut aussi parce que pour notre bien, même nos parents pensaient qu'il valait mieux apprendre l'anglais, par exemple. Je les remercie d'ailleurs d'avoir permis de parler cet anglais que je baragouine un petit peu aujourd'hui
ça
encore.
Ça vous permet de chanter l'hymne des Black Panthers.
Exactement. Et aussi, j'adore toutes les langues, comme je vous disais tout à l'heure. Mais moi, non, je n'ai pas ce don de l'improvisation versifiée.
Mais vous avez d'autres dons. Nous allons vous écouter.
Voyons.
La celda del castillo de Monjuí número 4 nos llevaron conducidos presos incomunicados sin delito cometido nos llevan a la prisión. Debilitan nuestras fuerzas y aumentan nuestro valor. Libertad amada, tú eres mi único anhelo. Tú eres mi ensueño, tú eres mi amor, libertad amada, tú eres mi único anhelo, tú eres mi ensueño, tú eres mi amor. Alors,
ce n'est pas du basque, c'est du catalan. C'est une chanson extraite de votre album en hommage à Buenaventura Durruti.
Oui, et Monjuí, ça c'est un des lieux célèbres de Barcelone. La chanson est un hymne en langue espagnole à la liberté. Et c'est dans ce disque qui était consacré à Durruti, donc à la tradition anarchiste, des vers qui ont été passés comme ça de génération en génération, un hymne à la liberté. Liberté, mon unique désir, ce que je souhaite. Et je pense que c'était, ne serait-ce que la chanter, est un talisman contre l'abandon. Voilà, c'est une force. Le chant est aussi une force. Une transmission, la transmission de tels vers, ça donne du courage.
Mais plus vous avancez, Beñat Atxarri, plus vous inventez de nouvelles formes. On parlait des joutes oratoires, on parlait de ces différentes polyphonies dans différentes langues, puisque vous chantez dans différentes langues, même si c'est le basque qui reste votre colonne vertébrale. Et puis vous avez inventé un nouveau genre qui est la pastorale aussi.
Alors, ce qu'on va inventer, c'est une pastorale, mais urbaine. Alors, la pastorale, c'est ce don révégiono dans le serpent d'étoiles et qui existe au Pays Basque dans la montagne. On appelle Pachtoua, là. Et donc, depuis très, très, très longtemps, dans un espace ritualisé par les pas de l'acteur-chanteur, se déroulent ces longues pièces chantées de plusieurs heures qui réunissent des milliers de spectateurs deux fois pendant l'été et qu'un village porte. Tout le monde étudie pendant des mois qui s'enrôle, et tout le village se mobilise pour réaliser cette œuvre dansée et chantée qu'on appelle la pastorale et qui est en français et qui est plantée dans la civilisation des bergers. D'ailleurs, les bergers, à un moment donné, quel que soit le sujet, entrent sur scène avec le troupeau, le chien, l'âne, tzintzarada, c'est-à-dire la musique composée par les bergers pour le troupeau, avec les cloches, qui est un art des bergers, qu'on appelle tzintzarada, donc, qui peut être très sophistiqué. Le goût, l'assemblage des sons du berger pour son troupeau est un art très prisé par les montagnards, donc, qui adorent la mise en branle par le troupeau de la musique de ces cloches. Mais ils sont là aussi sur scène, ils chantent, quel que soit le sujet, puis ils disparaissent. Alors nous, ce que nous allons faire en 2013, c'est une pastorale, mais urbaine. C'est-à-dire que ce pouvoir poétique de la pastorale, nous allons essayer de le cultiver sur la côte, dans l'histoire des travailleurs du métal, de la sidérurgie, et qui a existé en début du siècle dernier sur la rive droite de l'Adour, à l'embouchure de l'Adour. Voilà, donc il y a des générations d'ouvriers qui ont travaillé là, qui ont des vies entières qui sont bâties, des espoirs, etc., dont nous allons parler dans cette pastorale qui porte le nom du Temps des Cerises, en basque Gerecien Denbora, qui est déjà écrite par notre poétesse Itxaro Borda, et que peu à peu nous allons créer et donner l'été 2013.
Eh bien, avant d'attendre l'été 2013, Beniat Hatchari, nos auditeurs peuvent consulter notre site et trouver les références de tous vos disques et de tous les événements que vous organisez. Ils peuvent y participer, ils peuvent venir vous écouter chanter et ils peuvent aussi peut-être danser. Car dans ces fêtes, on chante, on danse. Et ce qui est remarquable, c'est que même quand on danse mal, même quand on chante mal, on a le droit de chanter dans le Pays Basque. Merci infiniment, Beniat Hatchari. Et merci à toute l'équipe de Hors-Champ, Fabien Capel, Brigitte Bouvier, Didier Lagarde, Catherine Parent, Anne-Vanessa Prévost. Vous écoutez France Culture dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.